C'est avec la visite de Lakhdar Brahimi, émissaire de l'ONU à Damas, qu'a débuté la semaine. Objectif, organiser une conférence internationale de paix sur la Syrie. Pas si simple, bien sûr, mais qui ne tente rien à rien. Le père jésuite Ziad Hilal à Homs nous disait soutenir la démarche, mais il rappelait surtout l'urgence d'une solution.
Je pense qu'il n'y a que la solution pacifique pour arrêter la guerre, pour arrêter la violence. Donc, pour nous, on encourage la mission de M. Lakhdar Brahimi afin d'associer tous les côtés et trouver un chemin ou une sortie pour notre pays.
Prier pour la chère nation irakienne malheureusement frappée quotidiennement par des épisodes tragiques de violence, l'appel du pape mercredi pour l'Irak lors de l'audience générale. Face à lui, une délégation irakienne avec plusieurs représentants de divers groupes religieux. Cette délégation a été reçue cette semaine au Vatican pour mettre en place avec le Saint-Siège un comité permanent de dialogue pour faire avancer la paix dans le pays. Monseigneur Louis Sacco, patriarche de Babylone des Chaldéens, s'en réjouissait.
L'initiative vient des musulmans, des groupes chiites. Et vraiment, c'est leur initiative parce qu'ils sentent qu'il n'y a d'autre moyen que le dialogue pour mettre fin au fondamentalisme musulman. C'est-à-dire, c'est un pas, c'est une prise de conscience très forte aujourd'hui. Tout le monde parle de ça. C'est quoi ça? Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de fin. Toujours des explosions et des gens qui sont morts et la destruction sur l'excuse de la religion et au nom de la religion. Et ça ne va pas, ça n'avance pas.
L'Église catholique se mobilisait aussi pour l'Amazonie. C'était une première, réunie à Manaus dans le nord-ouest du Brésil. Cette rencontre voulait répondre à l'appel du pape François en faveur de l'Amazonie. Mais dans les faits, la défense de cette immense région se révèle plus complexe. En Équateur, par exemple, le président Correa a demandé au Congrès, début octobre, l'autorisation d'exploiter le pétrole d'une importante réserve écologique. Le président contraint n'a pu que constater l'échec d'un plan international pour éviter cette extraction. Gaspar Estrada, chercheur à l'Observatoire politique d'Amérique latine et centrale à Sciences Po Paris, le regrettait.
C'est bien la première fois qu'un pays acceptait d'abandonner l'exploitation d'une réserve prouvée de pétrole, qui équivaut plus ou moins à 20% des réserves prouvées de l'Équateur, pour justement lutter contre le changement climatique, parce qu'il n'y a pas uniquement la question de la préservation de la biodiversité en Amazonie, mais aussi la question du gaz à effet de serre qui allait être produit par cette exploitation et qui visiblement vont être produits parce que cette exploitation sera mise à jour. Visiblement, l'Équateur n'a pas convaincu, n'a pas pu convaincre les bailleurs de fonds internationaux qui, peut-être en 2007, avaient une plus grande volonté d'appuyer ce genre de projet innovant, mais la crise est passée par là.
Après 10 ans au pouvoir, la coalition présidentielle de la présidente argentine Cristina Kirchner s'effrite. Sa formation a en effet subi un revers aux législatives en début de semaine. Si le Front pour la victoire est encore majoritaire au Parlement, le parti a perdu dans les 5 principales provinces du pays. Un scrutin qui révèle en tout cas un essoufflement du kirchnerisme, comme le soulignait Dario Rodriguez, chercheur à l'Institut des hautes recherches de l'Amérique latine.
En effet, on peut dire que les partis, les fronts pour la victoire, ils gardent encore, on va dire, la première majorité au niveau national, aussi les majorités, on va dire, dans les chambres législatives du Sénat des députés. Mais en effet, en tenant compte justement les scénarios des élections présidentielles en 2015, c'est clair en fait que le kirchnerisme semble affaibli tenant compte de la possibilité de gagner les prochaines élections.
En Chine, la place Tiananmen et l'explosion d'une voiture lundi. Si les autorités ont eu beau jeu d'accuser aussitôt la minorité musulmane ouïghour d'en être l'instigatrice, au-delà des faits, c'est la symbolique qui a marqué Tiananmen et le centre névralgique du pouvoir à Pékin. Cette attaque est-elle une brèche dans la façade du régime? Nous obtenions cette réponse de la sinologue Marie Holzmann.
Je dirais oui et non. Vous savez, il s'agit d'un incident. Hélas, on ne peut qualifier ça que d'incident. Et des incidents de ce type se produisent tous les jours en Chine. Ce genre d'actes violents se produisent près des mairies, près des gendarmeries, dans les autobus, un peu partout. Ce que le pouvoir chinois craint plus que tout, c'est un embrasement de tous les mécontentements. Pour le moment, le gouvernement chinois a toujours réussi à très bien, en quelque sorte, circonscrire chacun de ces événements et à le limiter. Il y a toujours un prétexte qui fait que l'acte n'est pas considéré comme un acte révolutionnaire et politique.
Et puis, en fin de semaine, l'Église célébrait la fête de tous les saints, la Toussaint, et le lendemain commémorait les défunts. que représente la Toussaint et que nous enseigne la foi chrétienne sur la mort, le père Michel Salamollard, prêtre du diocèse de Sion en Suisse, nous répondait.
Donc il y a d'abord la prise en compte de cette réalité-là, au fond qui est quelque chose de bienfaisant, puisque ça devrait nous pousser à vivre le moment présent de la meilleure façon possible. Si je sais qu'un jour je vais mourir, eh bien je peux me dire, essayons d'être un vivant avant d'être mort. Et puis la deuxième vérité complémentaire, c'est que cette mort, elle est pour une autre vie, une vie nouvelle, qui est en, d'une part en continuité avec cette vie présente, déjà riche de bonheur, mais jamais de bonheur totalement garanti et plaigné, et passage vers cette vie nouvelle dont nous, chrétiens, avons déjà l'avant-goût et comme le gage par la résurrection du Christ.